Nicolas Clerc, je vous rappelle le CAC 40 qui perd actuellement 0,24% maintenant à 3682 points à la Bourse de Paris. Pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03 sur France Inter, comme promis, 2000 ans d'histoire avec vous, Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, première d'une série de deux émissions sur celui qui a incarné la Révolution française, pour le meilleur et pour le pire, Robespierre. Inflexible pour les oppresseurs parce que je suis compatissant pour les opprimés. Robespierre. Mille ans d'histoire. Quand il est arrivé à Versailles en 1789 avec sa perruque poudrée, ses lunettes fumées et habillé comme un notaire, personne n'a prêté attention à ce député de 31 ans qui venait assister à l'ouverture des États généraux. Quatre ans plus tard, Robespierre était devenu l'homme le plus puissant et le plus redouté de France, le principal responsable de la terreur pendant laquelle, disait Fouquier-Tinville, les têtes tombaient comme des ardoises un soir d'orage. Celle de Robespierre devait tomber aussi, après toutes celles qu'il avait fait couper pendant ce qui fut un des moments les plus sanglants de l'histoire de France. Voilà pourquoi celui qu'on surnommait l'incorruptible est devenu la mauvaise conscience d'une révolution dont il fut pourtant un des principaux acteurs. Il avait fait couler trop de sang au nom d'une république qui préfère aujourd'hui l'oublier. Une république à laquelle Robespierre ne pensait pas encore lorsqu'en 1775, 14 ans avant la Révolution, cet élève brillant de Louis le Grand avait été chargé de rendre hommage à Louis XVI en latin et sous une pluie battante alors que le roi de France passait devant son collège.
Lodis, Ipremi, Nancy, Prestibat, Carmina, Phébus. Hélas, Majesté, aujourd'hui, Phébus est tourné en pluie. Vous êtes notre seul soleil.
Sire, le compliment est terminé.
Hey, hey, hey. Je ne peux pas le croire. Il ne nous a même pas adressé la parole. Je suis furieux, Maximilien.
Robespierre et Desmoulins, taisez-vous. Regagnez les rangs.
Nagui, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était l'extrait d'un très bon film, La Révolution française de Robert Enrico, que je cite souvent d'ailleurs dans cette émission. Alors avec cette scène extraordinaire, la rencontre entre Robespierre, le jeune Robespierre, et Louis XVI, qui sera sur son pire adversaire, et c'est une scène qui est parfaitement authentique, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre biographie de Robespierre.
Tout à fait, c'est une scène qui est connue. Bon, mis à part le fait que Camille Desmoulins n'était pas présent, mais
Il était à Louis le Grand, c'était.
C'était pour signifier qu'il était le condisciple de Robespierre. Et là encore, quelle rencontre, quel destin. Et en effet, c'était Robespierre était un élève très très brillant, et c'est son maître Hérivaux qui a été vraiment un de ses grands guides de jeunesse, un de ses grands modèles, qui a insisté pour qu'il fasse le compliment au roi de France. Alors, bon, la légende s'est un petit peu emparée de ce sujet, où l'humiliation du jeune Robespierre, on anticipe un peu sur les événements.
Alors, ce n'est qu'une de très nombreuses anecdotes qui sont dans votre livre, Laurent Nagli. Cette biographie de Robespierre, c'est plus qu'une biographie, d'ailleurs, c'est au fond, vous répondez par l'histoire de Robespierre à la question, au fond, comment peut-on devenir un monstre? Et une des clés, finalement, c'est dans sa jeunesse qu'on le trouve. Vous dites, les symptômes de Robespierre ne sont pas apparus en 1789, ils ont précédé les événements. Qu'est-ce qui, dans la jeunesse de Robespierre, a pu expliquer ce qu'il est devenu ensuite?
Alors, Bien sûr, Robespierre est tout d'abord un orphelin de mère. Il perd sa mère très tôt, à l'âge de 7 ans. Et ce qui va faire un double traumatisme, c'est que son père ne va pas assumer.
Il disparaît.
Va disparaître. La légende, on a un peu arrangé les choses en disant qu'il était dévoré par le chagrin. Bon, en fait, on sait qu'il est resté assez longtemps en Artois. Il est parti en Allemagne. Et ce qui est terrible, ce que je dis d'ailleurs dans l'ouvrage, c'est que souvent, une disparition est plus difficile à vivre qu'une mort réelle. Parce que un défunt, on peut aller se recueillir sur sa tombe, mais quelqu'un qui a disparu pour toujours, sans laisser de traces, le deuil est impossible.
Alors il se retrouve seul, c'est un solitaire, c'est un homme, enfin même un adolescent, mais plus tard un homme qui ne sourit jamais. Jamais personne, dites-vous, ne l'a vu sourire ou rire.
Dans les témoignages, alors bien sûr, il y a ceux qui sont les témoignages venimeux, il y a les témoignages thermidoriens, mais à part sa sœur qui a essayé de faire une réhabilitation, en effet, c'est un homme qui, et ça d'ailleurs toutes les sources se recoupent à ce sujet, qui est très isolé, il est très distrait, il est dans ses pensées, il y a une autre source qui dit qu'il est tout le temps replié sur lui-même. Il y a une anecdote, à un moment, une fois sa sœur lui parle dans la rue, elle est à côté de lui, et lui continue à marcher tout seul, il rentre chez lui seul, et il se rend compte plus tard qu'il a laissé sa sœur au milieu de la rue. Donc c'est une anecdote qui montre bien ce repli sur soi.
Mais seul au point de n'avoir eu aucune espèce de d'amour. Enfin, il n'y a pas de femme dans sa vie.
Non. On lui a prêté quelques maîtresses. Aucune relation n'est réellement avérée. Bon, même s'il y en a eu une ou deux, manifestement, ce n'est pas... C'est un sujet qui ne l'intéressait pas.
Alors, ce qui l'intéressait beaucoup plus, ça aussi c'est capital pour comprendre la suite, c'est que c'est un lecteur assidu de Rousseau. Il est pénétré de la pensée de Rousseau.
Voilà. Et alors ça, c'est quelque chose de fondamental, ça, on l'a dit déjà, mais je crois qu'il y avait beaucoup de choses à creuser dans ce domaine, parce qu'il faut bien s'imaginer que Robespierre est quelqu'un qui a vécu dans une sorte de désert affectif. Très très tôt, on l'a dit, il est orphelin, et je soupçonne aussi que même avant la disparition de ses parents, donc la mort ou la disparition, la fuite de son père, il a été déjà très très solitaire, bien avant. Donc il va essayer, il découvre son professeur Louis le Grand, lui fait découvrir Rousseau, et là c'est vraiment la révélation, c'est-à-dire c'est un modèle, c'est un personnage qui va lui apporter une philosophie de vie et qui va venir combler toutes ses carences.
Et une idée maîtresse qui servira à justifier plus tard beaucoup de crimes, c'est l'homme est naturellement bon, c'est la société qui perverti. Donc quand l'homme commet des excès, ce sera le cas pendant la Révolution, il le justifiera tout le temps. Oui,
et justement, alors ce qui est très important, pourquoi Robespierre, ça c'est une des clés à mon avis de la biographie de Robespierre, c'est pourquoi il va tenir absolument à cette explication, parce qu'elle vient aussi au niveau individuel, lui donner une explication de la désertion parentale. Si l'homme était bon par nature, mais c'est pas son père qui a déserté, qui l'a laissé tomber, sa mère qui était incapable de s'occuper vraiment de lui, mais c'est parce que la société, il y a une explication extérieure à la famille qui vient expliquer ce désastre personnel.
Puis il tient aussi de Rousseau la défense en permanence des opprimés contre les oppresseurs, une vision très manichéenne du monde, qui est divisée en deux, il y a les bons, les méchants. Il défend les opprimés d'abord comme avocat, et puis alors à Arras, où il est né en 1758...
Alors oui. Là, oui, il ne fait pas que
il se fait mousser aussi.
Là aussi, il faut faire, il y a la part de la légende. On a dit qu'il était qu'un homme ambitieux, ce qui n'a rien d'extraordinaire, un jeune avocat de cet âge, bon, c'était normal de l'être, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais bon, il a défendu aussi des notables, donc bon, il y a une part de légende. Mais cette légende s'est construite de son vivant et très très tôt, et lui-même l'a mise en scène aussi.
En tout cas, il quitte Arras, donc où il est né en 1758, pour arriver 31 ans plus tard, donc après sa naissance, à Versailles, député du tiers-état, aux états généraux, ouvert solennellement par Louis XVI dans la salle des menus plaisirs le 5 mai 1789.
Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin.
Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. En conséquence, il est de mon devoir de vous démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblés ici par Sa Majesté en états généraux, que chacun des trois ordres délibère séparément.
Et c'était Necker à l'ouverture des états généraux en 1789. Robespierre s'y trouve, il est député d'Arras, il est enthousiasmé par une révolution qui commence, qui va commencer, et au début de laquelle on le voit assez peu finalement. Il est beaucoup moins, on le voit en tout cas beaucoup moins que les grands ténors de l'époque. Le grand ténor en 89, c'était évidemment Mirabeau.
Tout à fait. Alors, il va s'insérer, je dirais, dans le sillage de Mirabeau, qui va un peu le couver, le prendre sous son aile. Le grand Mirabeau, en effet, qui était connu, Robespierre, personne ne sait qui c'est Robespierre. Bon, il a un petit peu courtisé Necker, il a envoyé quelques-unes de ses brochures, mais on voit d'ailleurs dans les journalistes de l'époque écorchent son nom, Robespierre, il y a toutes sortes d'orthographes. Donc, il arrive dans une période qui très très difficile, troublé, de guerre civile déjà. Hein. On traverse la France au milieu des émeutes. Il y a la faim qui tenaille. Bon, et il fait quelques éclats à l'Assemblée, mais pas suffisamment encore pour se faire connaître.
Vous savez, Mirabeau dont vous parliez, Laurent Dingli, dit avec cette phrase très jolie, dit Robespierre ira loin car il croit ce qu'il dit. Alors justement, ce que dit Robespierre est quand même très inquiétant, vous le rappelez, notamment sa réaction au moment des premiers excès, des premières violences de la Révolution. Il y a bien sûr le 14 juillet, la tête du gouverneur de la Bastille qui est promenée sur une pique. Et puis il y a le 23 juillet également, deux hommes, un conseiller au Parlement qui s'appelle Foulon et un ancien intendant d'Île-de-France, Berthier de Sauvigny, qui sont égorgés, dépecés par la foule. Et Robespierre, en voyant les restes de ces deux hommes, a cette phrase terrible, vous la citez, en voyant ces dégoûtants restes, je me disais, qui croirait que ces corps maintenant horribles ont été tant de fois baignés, étuvés, embaumés, parés, fêtés, et qu'ils ont fait souffrir un si grand nombre de malheureux. Quelle leçon pour les gens en place, combien de fourbes doivent frémir, c'est en vain qu'ils chercheront à prendre la fuite, la justice divine ne permet pas qu'ils puissent échapper. C'est terrible, au fond, il justifie.
Alors, pardonnez-moi, ce texte n'est pas de Robespierre, mais c'est un pamphlet qui a, mais sa pensée est tout à fait fidèle à la pensée de Robespierre. Et il est dans le prolongement. Et comme vous venez de le dire, il justifie. Il a cette phrase terrible qui dit, qui est ramassée en même temps, qui explique toute sa position ultérieure. Il dit. Monsieur Berthier et Foulon, il écrit un ami, Monsieur Berthier et Foulon ont été pendus ce matin par arrêt du peuple. Et donc, dans son dépouillement, cette phrase explique ce que les révolutionnaires vont appeler la sainte violence.
En tout cas, elle annonce la suite, la terreur. On n'en est pas encore là. Alors, aussi, dès le début, il se situe, on peut le dire, vraiment à la gauche, deux notions qui apparaissent d'ailleurs à ce moment-là, de l'Assemblée, disons, parmi les députés les plus radicaux. Il demande, d'abord, il n'est pas contre la monarchie, encore, il souhaite qu'elle soit très, très étroitement surveillée. Il est contre le veto qu'on propose pour le roi de France. Il se prononce également contre le système censitaire qui vise à, restreindre le droit de vote à des gens qui ont de l'argent pour pouvoir, enfin qui payent des impôts, qui payent aussi un cens pour pouvoir être élus député. Il est pour l'abolition de l'esclavage, pour les célibats des prêtres. C'est un député très avancé pour l'époque.
Oui, ça fait. Ce sont des sujets qui ont été, on peut même dire qu'il est d'avant-garde dans certains domaines et très conformiste sur d'autres. D'avant-garde sur ces points que vous venez d'évoquer, très importants, comme le célibat des prêtres. Toutes ces questions ont été des questions qui ont fait débat à l'époque au siècle des Lumières, tout au long d'une partie de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et donc, elles sont arrivées à maturité. Maintenant qu'il y a ces bouleversements politiques, on peut en parler. Il y a des représentants de la noblesse, du tiers-état, de l'ancien tiers-état, qui évoquent ces questions et qui se prononcent pour ces grands changements, ces grands bouleversements de société. Et en effet, sur ces points-là, Robespierre est un discours sincère, authentique, qui plaît, parce que chez lui, c'est pour ça que cette phrase de Mirabeau est tellement juste, extraordinaire.
Il croit tout ce qu'il dit.
Exactement, et je crois que Mirabeau, qui avait une perception des hommes extraordinaire, a bien résumé le personnage. Et c'est ça qui fait la force de Robespierre. Et je me permettrai d'ajouter, dans cette période, on y reviendra, de perte de repères, quelqu'un qui maintient le cap, qui ne change pas d'opinion, qui est très peu politique dans le sens politique-politicien, on dirait aujourd'hui, eh bien plaît. Et c'est ça qui va être...
Autre chose qui plaît, cette période est marquée aussi par beaucoup de corruption, y compris de la part de ces députés, de la constituante, enfin de ces tiers états qui sont devenus assemblée constituante, puis de la législative, puis de la convention. Et lui, c'est l'incorruptible. C'était ça. Quand apparaît ce surnom qui va le rendre populaire?
Eh bien, c'est pendant une exposition. Il y a une gravure de Robespierre qui va porter ce sous-titre, l'incorruptible. Et en effet, ça va rester, si mes souvenirs sont exacts, c'est en 1791. Je crois, c'est avant la séparation, juste avant la séparation de la constituante, et ça va être la découverte géniale, parce que et lui sera très fier aussi de ce qualificatif.
Alors, ce qui va également le faire connaître, c'est un événement qui se produit le 21 juin 1791, quand Lafayette, le chef de la garde nationale, apprend la fuite de Louis XVI.
Mon général, le roi est parti.
Parti où?
Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale.
Mon Dieu!
Romeuf, prenez note. Les ennemis de la Révolution ont enlevé le roi.
Personne n'a enlevé le roi.
Qu'est-ce que vous voulez, Bailly? Une république?
La perte du roi?
De ce fait, le porteur de ce message est chargé d'avertir tous les bons citoyens, au nom de la patrie en danger, de le sauver de leurs mains et de le ramener en sécurité à l'Assemblée nationale.
Maxime, l'Assemblée a confirmé l'ordre de Lafayette. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Deux années de travail détruites par cette conspiration. Le roi n'a pas pris ce risque sans avoir de puissants appuis à Paris et ailleurs. Les traîtres.
Son baptisme comme bien les arêtes, laissez les pères, ils n'iront pas bien loin. De désertés et d'un très malhonnête, dont les ingrats ont payé notre soin. Couple perfide, réserve mon larme, pour arroser le prix de vos forfaits. Le crime est seul le pouvoir de vos âmes, il vous conforte dans tous vos vains projets. Un peuple libre reconnaît les charmes, donnez votre au rang de vos sujets.
Vous êtes sur France Inter, dominant d'histoire aujourd'hui, Robespierre, et cette chanson de l'époque, Poursuite et retour de la famille ici devant Royal, c'était une chanson évidemment en l'honneur, si on peut dire, de Louis XVI au moment où il part, on l'a entendu dans l'extrait de film. Quelle est l'importance, Laurent Daguier? Parce qu'on voit bien, on a entendu Lafayette, dans cet extrait de film, inventer un enlèvement du roi, et Robespierre furieux, qui n'est pas du tout d'accord, et qui dit c'est un complot, mais le roi voulait partir. Quelle est l'importance? Parce qu'au fond, ça a vraiment, c'était la première grande division, au fond, de l'Assemblée.
Tout à fait. C'est vraiment un point fondamental. C'est-à-dire que l'enjeu est énorme. Pour les feuillants, maintenir cette fiction, qui est quelque chose de grossier.
Les feuillants, c'est les modérés, c'est, voilà, disons, la droite.
Les anciens jacobins qui ont pris le côté un peu plus modéré. Et pour eux, c'est le sort de la monarchie, évidemment, qui se joue. Parce que
ils la défendent.
Ils tentent une monarchie constitutionnelle. Voilà. Ils veulent maintenir une monarchie. Et ce qui fait le dilemme, c'est qu'ils veulent maintenir cette monarchie constitutionnelle en dépit du roi, qui fait tout. Et là, c'est évidemment la responsabilité de Louis XVI est énorme.
Alors là-dedans, il y a évidemment Lafayette, qui est la figure de proue.
Tout à fait, et avec ses ambitions personnelles, que Robespierre va dénoncer à juste titre, et qui sont énormes. Mais en même temps, voilà, le débat est là. Maintenir la monarchie constitutionnelle, parce que si on enlève la personne du roi, il n'y a personne à mettre à la place. Donc...
Alors, en tout cas, on a entendu Robespierre dénoncer cette fiction d'enlèvement. Pour lui, c'est une fuite. Il dénonce cette fuite. Il accable le roi. Et alors, on l'entend aussi dans cet extrait de film et dans votre livre, ça apparaît constamment. Il est obsédé par les trahisons, par les complots. Il en voit partout.
Alors, c'est là où on retrouve peut-être quelque chose qui lui est plus personnel. Le thème du complot est très présent, autant dans l'Ancien Régime que sous la Révolution française. Donc, il ne faut pas jeter le terme de paranoïa, un peu comme le font certains, un peu à toutes les sauces. En revanche, il est certain que Robespierre a une tendance à une organisation psychique qui est de ce type. Ça, c'est indéniable. Il n'y a pas un texte sans qu'il y ait dit référence au complot. Mais ce qui est très important, et on a très beau texte de lui de cette période, le problème, il le dit clairement, Robespierre, ce qu'il craint, ce n'est pas la Réunion. Lui, il ne connaît pas encore l'arrestation de Louis XVI. Il pense que le roi va reprendre le pouvoir, fort des armées étrangères, mais pas forcément en faisant une guerre, qui va appeler à la réconciliation nationale. Et il le dit clairement, comme une obsession, ce qui me fait peur à moi, c'est que on ne distingue plus le bien du mal, c'est que tout le monde se réconcilie. Et c'est là peut-être où on peut percevoir, c'est ce que j'essaie d'expliquer notamment dans ce livre, on peut ça hantise de la réconciliation nationale. Il n'a pas peur de... Et ce que j'explique, c'est qu'à partir de là, il ne pourra plus reconnaître le persécuteur. Lui,
c'est terrible ce que vous dites là, parce que ça implique effectivement, si ça va jusqu'à ça, au bout de la logique, ça implique la terreur qui viendra.
Déjà, elle est inscrite, en effet, dans le...
Alors, avec un ennemi, à l'époque, hein, c'est Lafayette, ce général ambitieux qui est plutôt... qui est un modéré, qui veut le maintien de la monarchie constitutionnelle. Et d'ailleurs, sur lequel je crois que c'est Robespierre, parce que là, tout à l'heure, je fais une fausse citation, mais je me demande si c'est la bonne. Je me demande si c'est pas Robespierre qui avait inventé cette formule en parlant de Gilbert de Lafayette et qui disait Gilles César.
C'est encore le grand et très perspicace Mirabeau.
C'était Mirabeau.
Qui avait un talent littéraire, en plus.
En tout cas, Robespierre n'a plus confiance en l'Assemblée. Il demande à ce que dans la future... Alors l'Assemblée était devenue constituante. Bon, elle donne une constitution, et dans cette constitution, on prévoit l'élection d'une Assemblée législative, et Robespierre, qui se méfie de la constituante, dit, alors qu'il en fait partie, dit pas question que dans la nouvelle Assemblée, il y ait des députés de la constituante. Elle doit être entièrement renouvelée. Hein, pas de représentants de l'ancienne constituante.
Là encore, l'enjeu est fondamental. Et c'est une des décisions, beaucoup d'historiens l'ont dit déjà depuis longtemps, c'est une des décisions clés de la Révolution, en tout cas de cette période, et qui va orienter tout l'avenir de la Révolution. Pourquoi ? Parce que c'est l'Assemblée qui a été nommée pour les États généraux. Il y a une opposition interne qui est l'aristocratie, il y a l'Église, il y a la noblesse, il y a le tiers-État. Avec, dans le tiers-État, des gens qui sont modérés, plus ou moins maximalistes, etc. C'est cette opposition de droite, pour aller rapidement, de l'aristocratie, qui va disparaître avec la non-réélection des députés. La législative sera une assemblée sans réelle opposition interne, même s'il y aura au sein de l'ancien tiers des divergences. Donc voilà, c'est ça, on se prive d'un débat, on se prive et là aussi la terreur est inscrite dans ce choix politique, qui est celui de Robespierre.
Alors Robespierre, donc, après avoir fait approuver cette idée qu'il n'y aurait plus de députés de la constituante dans la nouvelle assemblée, cette constituante se sépare le 30 septembre, il est adulé, il est encensé, il fait partie de cette fois-ci des députés.
On l'appelle le député vierge avec Pétion, il est député vierge.
Et il n'est plus député, mais alors il va se manifester, se faire connaître, continuer de se servir comme d'une tribune, non plus de l'Assemblée, à laquelle il n'appartient plus, mais du club des Jacobins. Expliquez-nous, en quelques mots, comment se fait-il que ce club, ce petit club qui réunissait quelques dizaines ou quelques centaines éventuellement de personnes, ait pu prendre une telle importance à cette époque de la Révolution, Laurent Demely?
Alors ça, c'est quelque chose de très important, parce que c'était le premier mouvement organisé au sein de l'Assemblée des États généraux. Et donc, c'est devenu une sorte de concurrence de l'Assemblée nationale. Tous les grands leaders de la Révolution se sont retrouvés au sein de ce qui était au départ le Club Breton, dont Mirabeau, Barnave, Robespierre. Mais progressivement, Robespierre va en prendre le contrôle. À cette époque, à la fin de la Constituante, c'est pas du tout le cas encore. Il ne faut pas s'imaginer Robespierre tout puissant à cette époque. Il va prendre très progressivement le contrôle du club. Et il y a aussi, ce qui est très important, c'est tout le réseau d'affiliation. Les clubs, il y a des clubs en province, on échange des courriers, on échange des journaux.
Oui. Et puis il y a des débats absolument fabuleux. D'ailleurs, un des plus importants, justement, dans lequel Robespierre va se retrouver minoritaire, au club des Jacobins, c'est celui qui se déroule en avril 1792, lorsque Brissot et ce qu'on appelle les Girondins défendent la guerre, alors que lui, Robespierre, s'y oppose.
La guerre n'est pas une solution. Écoutez-moi bien, Brissot, et vous tous, les amis girondins.
affirmer à cette tribune qu'il faut déclarer la guerre est intolérable. Toute guerre offensive est par nature contre-révolutionnaire.
Avez-vous donc si peu de confiance dans la cause révolutionnaire?
Il ne suffit pas qu'un peuple entre à main armée chez un autre peuple pour lui faire adopter ses lois et sa constitution.
Les peuples de toute l'Europe nous attendent!
Personne n'aime les missionnaires armés!
Et c'était Robespierre, une phrase authentique, hein, refusant justement la guerre dans laquelle les Girondins veulent entraîner la France. Lui, il est contre. Pourquoi est-ce que Robespierre est contre cette guerre qui va bouleverser, qui va faire accélérer la révolution vers la terreur d'ailleurs?
Voilà, après une petite période de flottement, où il hésite, il se dit que ce serait peut-être une bonne chose, il va se ranger à l'idée d'un autre grand révolutionnaire qui est Biot-Varenne et rejeter l'idée d'une guerre. Pourquoi? En fait, il ne fait que renouer avec ses propres idées, celles qu'il a toujours défendues dès la Constituante, c'est-à-dire une méfiance, je dirais presque maladive, parfois justifiée, mais une méfiance obsessionnelle du pouvoir exécutif. Et il faut dire aussi, ce sont des hommes, les révolutionnaires, pas seulement Robespierre, ce sont des hommes qui sont pénétrés d'histoire antique, d'histoire romaine, et qui ont comme modèle les dictatures qui sont imposées et qui ont tué la République romaine avec ses généraux victorieux.
Pardon. Cette guerre, effectivement, peut amener un général victorieux au pouvoir. Là, il voit bien, Robespierre, ce sera plus tard Bonaparte.
Alors,
Et puis, ça peut aussi, au fond, dans les deux cas, c'est plutôt bon pour le roi, parce que c'est lui qui la déclenche. Donc, si la France gagne, évidemment, la monarchie va être consolidée. Si, en revanche, elle est battue, les troupes de la coalition vont rétablir la monarchie. Donc, c'est peut-être pour ça aussi de ça qu'il se méfie de Robespierre.
Ça fait, il a très bien, et là, pour ça, il a été très lucide sur ce point. Il a bien compris le double jeu de la cour, à mon avis, dès cette période. Mais il faut dire aussi les textes dans leur durée, et on voit qu'après, Robespierre n'évolue pas parce qu'il garde ses idées, mais il est pour une guerre, il le dira.
Il va se rallier à l'idée de la guerre une fois qu'elle est déclenchée.
Je pense que c'est pas qu'il a pas changé d'avis en fait. C'est pour comprendre la logique interne de Robespierre, c'est que il est pour une guerre à condition qu'elle soit faite non. Qu'elle ne soit pas menée par des traîtres, Lafayette et tous les officiers d'Ancien Régime, qui pour lui sont par essence des traîtres, mais qu'elle soit menée par des généraux purs, sans ambition, et qui soient un peu des doubles de Robespierre lui-même.
Et cette guerre, donc, il ne l'empêchera pas, il va s'y rallier, vous l'avez dit, c'est le début d'une guerre de 23 ans qui va faire accélérer la révolution, provoquer la chute de la monarchie et la terreur. Nous en parlerons demain avec vous, Laurent Linguet. Je rappelle donc que votre biographie de Robespierre, dont nous parlerons, vient d'être publiée chez Flammarion. Vous avez pu entendre des extraits du film La Révolution française de Richard Effron et Robert Enrico avec André Zverin dans le rôle de Robespierre. Des références que vous pouvez retrouver en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230 puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. Je rappelle enfin que notre émission est rediffusée la nuit entre 3h et 3h30 du matin. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Clotilde Thomas et Sandrine Laurent, documentation Virginie Bloch-Léné, Claire Tesser, Cédric...